Donc, bienvenue à tous. On est maintenant au 306e épisode du podcast Hypercroissance. Ça m'impressionne à chaque fois que je mets un numéro avant le lancement d'un nouvel épisode, à quel point qu'on a fait du chemin ici. Et aujourd'hui, sur l'épisode du jour, eh bien, c'est une discussion d'affaires avec mon bon ami Jonathan Léveillé. Jonathan qui vient nous expliquer un concept assez intéressant, qu'il a mis en place avec son entreprise récemment. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de changements chez Open Mind Technology. Il a été capable de faire un mouvement stratégique où est-ce qu'il a vendu une partie de son entreprise et gardé le reste de son organisation pour se focusser sur une seule ligne d'affaires. Et il nous parle d'une activité qu'il a mis à l'intérieur même de son entreprise qui est assez formidable. Il va même nous donner littéralement un cas pratique de comment nous, on va être capable par la suite d'implanter ça dans notre entreprise. J'ai été une des personnes les plus captivées par tout ça et je pense que je vais mettre ça également en place dans mes entreprises. Également par la suite, on fait un retour sur la lettre aux actionnaires que Warren Buffett fait à chaque année avec Berkshire Hathaway. Donc, vous allez voir, c'est un épisode assez intéressant d'une trentaine de minutes ensemble, convaincu que ça va pouvoir vous donner beaucoup de contexte sur des choses que vous pouvez mettre en place avec votre organisation et également peut-être un petit peu d'inspiration pour les prochains jours. Également, comme à chaque podcast, je vous le demande, si vous pouvez vous abonner. Si vous écoutez ce podcast-là en vidéo, abonnez-vous sur YouTube, ça ferait toute la différence pour nous. Également, si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cliquez également pour vous abonner pour recevoir tous les épisodes qui, vous le savez, sortent les lundis et le jeudi. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent épisode du podcast Hypercroissance. Vous auriez investi en 1965 $100 avec Warren Buffett, eh bien, votre $100 aujourd'hui vaudrait 400 millions de dollars. Donc, souvent, les gens, quand on investit sur le marché boursier, on se dit, avec le S&P 500, on va faire 7, 8, 10% à l'année. Effectivement, de 1965 à aujourd'hui, l'indice boursier du S&P 500 fait 10,2% d'intérêt composé en moyenne. Berkshire Hathaway avec Warren Buffett, 19,8% en moyenne. Il a littéralement ou quasiment doublé les ratios de retour sur investissement que le S&P 500 fait. C'est pour vous dire à quel point c'est un investisseur hors pair qui a été capable de faire énormément d'argent au courant de sa carrière. Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance avec nul autre que Jonathan Léveillé pour faire notre fameuse discussion d'affaires du jeudi. Mais avant toute chose, j'ai une annonce exceptionnelle à vous faire. Après avoir fait l'annonce en direct de San Francisco sur le podcast comme qu'on voulait faire un événement avec tous les gens qui écoutent le podcast Hypercroissance et la communauté d'entrepreneurs du Québec. Et après avoir eu quelques discussions avec notre réseau de contacts à l'interne, eh bien, je vous l'annonce, on va faire un événement en présentiel. Cet événement-là va avoir lieu à la fin mai 2024. Donc, si vous écoutez le podcast aujourd'hui, on est le 27 février 2024. Donc, littéralement, dans 3 mois, 90 jours, l'événement va avoir lieu. On va essayer de mixer ça avec l'événement de C2 Montréal qui se déroule également vers la fin mai. Il y a beaucoup de communautés, beaucoup de gens d'affaires. La communauté d'affaires est au centre-ville de Montréal. Donc, le soir, après une journée d'événements complets à C2, on va organiser l'événement du podcast Hypercroissance. Donc, on risque d'être capable d'avoir un maximum de gens business avec nous. On va faire l'annonce officielle de la date, à mon avis, dans les prochains podcasts. Mais si vous êtes déjà intéressé à venir et que vous avez peut-être envie même d'en parler avec les gens qui vont venir avec vous, vous allez retrouver dans les notes de l'épisode un petit formulaire que vous allez avoir à remplir de 2-3 questions qui vous demandent simplement votre nom, qu'est-ce que vous attendez de l'événement. On risque de faire des entretiens, 2 à 3 entretiens en direct avec, bien entendu, Jonathan, avec, bien entendu, d'autres membres du podcast Hypercroissance et peut-être des invités exclusifs qui ne sont jamais encore venus sur le podcast. Donc, allez dans les commentaires, remplissez le petit document. Très simplement, ça va être un événement qui ne sera pas tellement dispendieux. 20, 30 $ à l'entrée, vous allez avoir des drinks, des bouchées. Donc, on va faire ça davantage dans un contexte 5 à 7 avec peut-être 20, 30, 40, 50 personnes. On regardera un petit peu l'intérêt. Et on risque de faire également un souper exclusif, 5-10 personnes qui ici seront un petit peu plus dispendieux par la suite. Donc ça, c'est le format vraiment de l'événement. C'est le premier. Si on a du succès, vous aurez compris, on va en faire un deuxième, un troisième, etc. Mais ça va se dérouler au centre-ville de Montréal ou dans le Vieux-Port de Montréal, fin mai 2024. La date exacte va être mise de l'avant dans un prochain podcast. Vous allez en entendre parler également sur les médias sociaux. Jonathan, est-ce que tu es heureux que finalement on fasse cet événement-là?
Très heureux et j'ai quelques idées d'invités peut-être qu'on pourrait solliciter. Je sais que tu as un grand but d'une personne en particulier que tu aimerais amener sur ton podcast depuis longtemps. Je n'aimerais pas là, mais tu as peut-être le nom en tête. Donc, je te lancerai le défi, Antoine, peut-être qu'on peut s'approcher cette fameuse
faire.
Personne. Oui, et voilà.
Donc, bien, on va tout faire pour l'avoir.
Et je pense que ça va être le fun de connecter avec les gens aussi en personne parce que c'est bien que vous nous écoutez régulièrement dans vos oreilles. Nous, on apprécie énormément d'avoir un touch point avec vous. Donc, en présentiel, c'est encore plus fun. Donc, super emballé pour l'événement. Puis, hâte d'avoir tout le monde de la communauté en présentiel.
Ça va être vraiment plaisant. Et également, simplement pour le mentionner, on a été capable. Il y a beaucoup de gens depuis un bon bout de temps déjà qui voulaient faire des commanditaires, sponsors sur le podcast Hypercroissance. Donc, vous aurez compris, faire un événement de la sorte, ça va coûter des sous. Et bon, déjà qu'on met énormément de temps sur le podcast, on voulait également avoir un petit peu d'aide cette fois-ci pour l'événement. Donc, on a déjà deux entreprises qu'on connaît très bien qui se sont portées garantes pour nous aider et être commanditaires pour l'événement. On les mentionnera bientôt quand l'événement sera officiel. Mais il nous manquerait un joueur, une organisation qui serait intéressée à sponsoriser l'événement et par extension sponsoriser le podcast. Le plan de commandite va comme suit, c'est-à-dire que vous allez être présentateur officiel avec nos deux autres commanditaires de l'événement. Vous allez avoir des annonces sur le podcast Hypercroissance pour les 8 à 10 prochaines semaines jusqu'à l'événement. On va parler de vous, on va parler également de vous dans nos envois d'infolettres. Donc, vraiment une belle visibilité. Si vous êtes intéressé à sponsoriser l'événement et par extension, sponsoriser le podcast jusqu'à l'événement, parce que je le répète, les deux vont ensemble, venez m'écrire directement sur LinkedIn. Mon email également est également dans les notes de l'épisode. Il nous manque simplement un commanditaire. Donc, s'il y a une entreprise qui écoute le podcast et qui pense depuis un bon bout de temps vouloir s'advertiser devant les entrepreneurs du Québec, bien, le podcast Hypercroissance rejoint des dizaines et des dizaines de milliers de personnes par mois de la communauté d'affaires. Donc, ça peut être votre chance. Venez nous écouter sur LinkedIn. Jonathan, c'était ma petite annonce. Je pense que ça valait la peine. On était capable de sécuriser quelques ententes et de sécuriser l'événement récemment, ou du moins, on va dire, dans l'idée, il nous reste quelques points à mettre en place. Mais est-ce qu'on commence le podcast? Est-ce qu'on a des nouvelles un petit peu à parler avec notre audience aujourd'hui?
Ce que j'aimerais partager, Antoine, aujourd'hui, c'est un exercice stratégique qu'on a fait dans l'entreprise dans les dernières journées. Et je suis quelqu'un qui est extrêmement en mode de toujours essayer d'améliorer les choses. Peut-être un peu trop des fois que l'équipe va dire, là, je suis tout le temps en train d'essayer de chercher la nouvelle méthode, le nouveau framework, le nouvel exercice pour essayer d'amener l'organisation à un autre niveau. Et ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à ce qu'on apporte quelque chose de nouveau dans l'organisation puis que je fasse « wow ». Ça, là, c'est vraiment un game changer pour la suite des choses. Et c'est un peu ce que je veux vous partager. Puis c'est un exercice qui semble très banal quand je vais le dire. On l'a mis en place parce qu'on se l'est fait conseiller par un de nos aviseurs, entre autres, sur notre CA. Et je me suis dit, bon, je vais embarquer, je vais le faire. D'après moi, ça va faire du sens. Mais mon Dieu, que nous, de notre côté, honnêtement, ça va être vraiment un très grand game changer. Et je pense que c'est l'événement dans les 2-3 dernières années qu'on a fait dans l'organisation qui, pour moi, me donne vraiment une input incroyable pour aller au prochain niveau.
Tell me more.
Et voilà, on part avec ça. Je mets une prémisse là-dessus, c'est que depuis bientôt 19 ans, on est une entreprise qui avait deux grandes équipes de services. On a décidé maintenant d'être extrêmement focus sur tout ce qui est nos services d'automatisation d'entreprise par le développement logiciel sur mesure.
D'ailleurs, Jonathan, je t'arrêterai ici. Ça a été rendu public. On l'a vu sur vos médias sociaux. Peut-être pourrais-tu nous dire ce qui s'est déroulé avec OpenMind. Je pense que ça donnera un petit peu de contexte à ce que tu vas nous dire là.
Absolument. Donc, comme je mentionnais, ça faisait longtemps qu'on avait deux grandes équipes de services. Une qui est l'automatisation par du développement logiciel sur mesure. Et l'autre grande équipe, c'était de la gestion de parc informatique, tout ce qui venait avec jusqu'à la cybersécurité. Et ça nous a beaucoup aidé dans les dernières années à avoir une belle croissance, à avancer. Ça permettait d'avoir les deux services sous le même toit pour les clients. Mais plus qu'on avançait, plus qu'on se rendait compte que pour aller à la prochaine étape, fallait une équipe de gestion dédiée pour chacune de ces cores de services-là. Fallait une équipe marketing dédiée pour chacun de ces cores-là, une équipe de vente pour chacun de ces cores-là. Donc, ce qui nous a beaucoup aidé à travers le temps devenait potentiellement un frein, du moins pour pouvoir amener la valeur à un autre niveau puis notre croissance à un autre niveau. Donc, nos aviseurs nous ont challengés il y a plusieurs trimestres de ça par rapport à ça. Et on est parti un petit peu en croisade de voir, bon, mais quelle décision qu'on prenait, voir quelle équipe on décidait d'aller all-in, d'être extrêmement focus, puis d'amener ça à la prochaine marche. Et à l'automne passé, on a pris la décision avec l'équipe de gestion de focusser entièrement à 110% sur le développement logiciel sur mesure. Donc, on a approché un de nos partenaires avec qui on travaille depuis extrêmement longtemps, qui est l'entreprise Mon Technicien, pour qu'ils puissent reprendre l'ensemble de nos activités là, de gestion de parc informatique. Donc, toute la gang a suivi au complet, 100% des emplois ont été préservés. Et pour nos clients, au final, ça donne simplement plus de vélocité d'expertise, une plus grande équipe pour les accompagner sur la gestion de parc informatique. Et nous, ça nous permet après ça, pour la suite des choses chez OpenMind, d'être extrêmement focus sur un seul service. Et là, d'avoir la mission de devenir le meilleur au monde sur une seule chose.
Bien sûr. Donc, pour moi, je vais prendre un autre moment. Je voudrais te féliciter. C'est exceptionnel d'avoir fait ça. Donc, tu as vendu, on va dire, une partie de ton entreprise tout en gardant ton entreprise principale et tu as vraiment été capable de faire ce qu'on appelle un volet gagnant-gagnant-gagnant. Pour vous, c'est gagnant parce que vous allez vous focusser sur une chose. Pour tes clients, c'est gagnant parce qu'ils vont avoir une entreprise maintenant qui va être 100% dédiée à ce que eux ont besoin spécifiquement, qui vous, chez vous, n'était plus un, on pourrait dire, un focus principal. Et je pense également, même quatre personnes qui sont gagnantes, tes employés, un environnement qui est plus orienté ou tes anciens employés, un environnement qui est davantage orienté à ce que eux veulent faire dans leur ligne d'affaires et l'entreprise qui a fait l'acquisition d'une partie de votre entreprise, j'imagine qu'elles vont croître également avec vous. Donc, ça a été vraiment un très bon deal pour tous les parties dans l'équation, là.
Et c'était un peu la logique de pourquoi on voulait avancer parce que tous les feux étaient verts à ce moment-là pour l'ensemble des parties. Et en plus de ça, ça nous donne du capital supplémentaire pour accélérer la croissance du reste d'OpenMind. Donc, effectivement, puis ce qui est toujours spécial dans ce genre de transaction-là, c'est qu'on peut y mettre des hypothèses par rapport au fit culturel, au fit stratégique. Mais ce qu'on voit à l'heure actuelle, honnêtement, tous nos hypothèses se confirment. Et c'est vraiment le fun pour les joueurs qui ont transféré de l'autre côté. Ils ont vraiment maintenant une équipe de gestion qui est dédiée pour eux. Plus de possibilités d'avancement, plus de d'échelle potentielle au niveau de l'expertise. Donc, honnêtement, on n'aurait pas pu rêver une transaction aussi plus bénéfique pour toutes les parties au bout de la ligne. Fait qu'on est super emballés de ça. Et pour la première fois en 19 ans, là, je peux dire qu'on est focus sur une seule chose. Et ça m'emballe énormément. On est déjà là, on voit un petit peu les effets sur l'organisation. Merci. Puis, c'est pas facile à prendre comme décision. Je la mets dans la série de décisions qui est des décisions courageuses entrepreneuriales parce qu'on laisse aller quand même 14 bons et beaux humains qui étaient avec nous, qui étaient comme des membres de la famille. Donc ça, c'est le bout qui est un peu plus déchirant, mais on le sait qu'on le fait pour les bonnes raisons. On le sait qu'on l'a fait pour les bonnes raisons. Puis on sait que la nouvelle maison qui les accueille va être égale, sinon mieux, que ce qu'on pouvait donner puis offrir.
Et avant de continuer sur le sujet qui, je pense, notre audience a vraiment hâte d'entendre, est-ce que tu serais à l'aise dans un prochain épisode d'expliquer un petit peu tout le raisonnement, la procédure qui s'est déroulée derrière, sachant que maintenant, c'est public, vous l'avez annoncé sur vos médias sociaux, mon technicien également l'a annoncé sur ses médias sociaux, je l'ai vu. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais à l'aise? Parce que j'ai vraiment l'impression que la communauté d'entrepreneurs qui nous écoute se pose des questions comme ça. Souvent, on bâtit une organisation et on pense que pour croître, on a besoin de plus de lignes d'affaires. Des fois, c'est vrai, mais des fois, comme Jonathan l'a mentionné, à un certain point, ça peut être un frein dans notre croissance. Donc, il faut trouver la bonne façon de préparer l'avenir. J'ai l'impression que ça pourrait être un cas intéressant à décortiquer sur le podcast, là.
Ça me ferait plaisir qu'on en parle un peu plus en détail dans un autre épisode d'Antoine. Absolument.
Fantastique. Bon, on vient de se créer un prochain épisode. Donc, je referme la parenthèse. On revient à ton exercice. Vous êtes une entreprise maintenant 100% orientée développement logiciel sur mesure. Vous en parlez souvent sur votre podcast Pivot. Et là, tu fais un exercice avec tes équipes, un exercice qui a changé beaucoup de choses chez OpenMind. On t'écoute. Parle-nous en plus.
Absolument. Avec ce mouvement-là stratégique, il fallait redévoiler un nouveau plan de match puis une nouvelle stratégie à l'équipe de comment on allait se rendre à la prochaine étape. Donc, avec l'équipe de gestion, on a concocté quand même un très bon plan stratégique. Mais un de nos aviseurs sur notre CA nous a dit, écoutez, ça serait important que vous alliez sonder l'ensemble de l'organisation mais d'une manière très structurée. Et cette personne-là nous a partagé un peu comment que lui l'avait fait à l'époque, qu'il avait dû prendre exactement la même décision que nous de laisser partir une partie de l'équipe pour se focusser sur une autre partie. Donc, ce qu'on a fait, puis ça va l'air très anodin comme exercice, mais je vous le dis, j'ai été vraiment très surpris de ce qui est ressorti de là puis comment ça s'est passé et les après rebonds ou conséquences positives de cet exercice-là. Donc, ce qu'on a fait, ce que la personne nous a recommandé, ce qu'on a mis en application, c'est de faire des séances, des blocs de 2 heures de focus group avec des groupes de 7 à 10 personnes dans l'organisation, mais de faire des groupes extrêmement éclatés, donc des groupes hétérogènes. Donc, pas juste 7 à 10 développeurs, mais de prendre 2 développeurs avec un chargé de projet, mais une personne du marketing, une personne des ventes, une personne des finances. Donc, de faire le tour de l'organisation par bloc, par petit groupe de 7 à 10 personnes, 2 heures par bloc. Et à ce moment-là, de poser la même série de questions à ces divers groupes-là. Donc, c'est des questions qui sont prédéfinies à l'avance. Et la logique, c'est de mettre en situation les gens où que, exemple, moi qui pose la question à l'ensemble du groupe, je ne fais que poser des questions. Je ne réponds à aucune question et je ne dirai rien pendant les 2 heures, outre que poser des questions et peut-être te poser des sous-questions. Et c'est hallucinant la dynamique qui s'installe quand on lance une question dans le milieu du groupe. On était assis un petit peu en format cercle, en format rond. Je lance une question, exemple. Dans la série de questions, c'est est-ce que vous pensez que notre mission est encore à jour? Et hallucinant ce qui se passe juste avec cette question-là, parce que les gens vont dire, hey, c'est quoi notre mission? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? OK, ça, c'est notre mission. Hey, on est sûr que c'est ça? Ça fait-tu du sens? Puis, ah non, on veut aller vers là. Peut-être faudrait la retravailler. Et là, de voir l'ensemble de la dynamique de tous les joueurs dans les différentes équipes et après ça, de pouvoir benchmarker ça d'un groupe à l'autre, d'un bloc de 2 heures à l'autre, honnêtement, c'est hallucinant parce que on se rend compte après qu'il y a des choses qui reviennent d'un groupe à l'autre, comme si chacun des groupes s'était parlé. Il y a des tendances qui se dessinent. Par exemple, dans les questions que nous qu'on a posées, c'était « Est-ce que notre mission est encore à jour, mais ça découle de qui s'en souvient? Ça fait-tu du sens? C'est-tu toujours aligné? Après ça, est-ce que nos valeurs sont encore à jour? » Et là, les gens vont dire, hey, moi, je les vis les valeurs. Non, moi, je vis pas telle valeur. Après ça, hey, cette valeur-là, elle me parle pas du tout. Mais l'autre dit, oui, moi, elle me parle, celle-là. Et là, finalement, souvent, ce qui va être dit dans un groupe se retrouve dans l'autre. C'est, OK, on a un problème avec cette valeur-là en particulier. Ça rejoint pas les gens ou les gens l'interprètent pas comme faux. Mais après ça, dans les questions qu'on a posées, c'était dans qu'est-ce qu'on est bon qu'on devrait continuer à faire? Qu'est-ce qu'on n'est pas bon qu'on ne devrait plus faire? Qu'est-ce qui nous manque pour aller à la prochaine étape? Qu'est-ce qui nous manque comme formation? Qu'est-ce qui vous manque comme outil? Qu'est-ce que vous comprenez du plan stratégique jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le plan stratégique? Qu'est-ce qui vous rassure? Donc, on a vraiment sorti une série de questions et en lançant ça dans les airs à travers les gens, Antoine, j'ai à peu près 90 points ou 90 idées qui sont sorties de ces 4 fois 2 blocs de 2 heures-là. Et on a des tendances très claires qui ont ressorti dans les équipes qu'on fait. Oh mon Dieu, on avait en tant qu'équipe de gestion un blind spot sur le point A, B et C. Et on a des confirmations sur D, E, F, G. Et honnêtement, la transparence que les gens ont faite, puis l'honnêteté, la franchise, on l'a dit, on a dit aux gens ici, là, honnêtement, on peut tous dire, c'est un safe space. Il n'y a aucune représailles sur ce qui va être dit aujourd'hui. On est vraiment juste en mode écoute, donc faites-nous plaisir de vraiment nous dire ce que vous avez en tête. On est sorti de là, l'équipe de gestion. J'avais ma personne au HR qui était avec moi, puis mon directeur général. Et les 3, on disait rien autre que moi, je posais une question de temps à autre. Les 2 étaient silencieux, prenaient des notes. Et mon Dieu que moi, ça m'a permis de me connecter avec vraiment ce qui se passait dans l'ensemble de l'organisation, comprendre les enjeux de l'organisation, comprendre les enjeux individuels. Et l'autre grand bénéfice qu'il y a, c'est que pour la première fois, les gens d'une équipe commençaient à comprendre la réalité d'une autre équipe. Et ça, c'est wow, parce que quand quelqu'un des ventes commençait à parler qu'il y avait un problème par rapport aux soumissions qui étaient déposées parce que ça coinçait au niveau des évaluations de production, et il y avait des échanges que, hey, mon Dieu, j'ai jamais vu ça comme ça. Et là, il y avait un développeur qui disait, hey, mon Dieu, je comprenais pas ta réalité, mais là, je la comprends. Puis là, il y a la personne des finances qui se lève, qui disait, hey, moi, j'ai telle problématique. Et là, l'autre équipe comprend. Incroyable, cet échange-là de connaissances entre les équipes et cet échange-là de réalité et de compréhension de réalité, ça a été un autre gain vraiment qu'on a été chercher au final. Donc, ça nous a, en gros, identifié des blind spots, confirmé des perceptions qu'on avait ou des hypothèses qu'on avait. Ça a augmenté énormément le sentiment de contribution et d'appartenance des joueurs. Il y a des joueurs qui m'ont écrit après dire, je suis vraiment content de pouvoir donner mon opinion puis donner ma couleur pour la nouvelle page qu'on écrit de l'organisation d'Open Mind. Ça permet aux gens de connaître les réalités des collègues puis des autres équipes. Et ça a permis à nous de se connecter vraiment avec les gens puis surtout d'évaluer les tendances à travers les divers groupes qui, des fois, ben ils se dessinent extrêmement clairement. Il y a des choses qui ont sorti, là, Antoine, je te dis, mon Dieu, comment ça que ça, on l'a pas vu? Et les 4 groupes l'ont dit de manière très claire, comme si les groupes s'étaient parlé entre eux autres, puis c'était pas le cas. Donc, ça a été vraiment pertinent comme exercice, plein de choses qu'on va mettre en action, plein de choses qui nous confirment qu'on est dans la bonne direction. Puis je pense que ça va vraiment nous permettre d'avoir un effet de levier pour la suite des choses, mais de surtout permettre aux gens d'apporter leur couleur et leur voix au plan stratégique qu'on va dévoiler dans 2 semaines. Et ça va permettre aux gens aussi de se mobiliser à travers ce plan stratégique-là, parce qu'il y a plein d'éléments qui ont apporté qui vont se retrouver dans le plan stratégique et que les gens vont dire, hey, ça, c'est moi qui ai mis cet élément-là ou qui en a parlé. Puis let's go, on va à la prochaine étape.
Parce que tu as un travail de cheerleader un peu à faire, toi, en ce moment. Il faut que tu convainques les équipes de la raison derrière la grosse transaction que vous avez faite. C'est-à-dire, en ce moment, c'est un petit peu ça. Tu dois aller prendre les infos de chacun de tes joueurs et par la suite expliquer fondamentalement pourquoi toute chose est faite, parce que c'est un gros changement pour tes équipes, tout ça, là.
Exactement. Et c'est surtout de clairement leur montrer c'est quoi la direction où ce qu'on s'en va et comment ils peuvent s'impliquer là-dedans et qu'ils soient très transparents à qu'est-ce qu'ils pensent qui fonctionnera pas dans cette direction-là pour qu'on puisse le bonifier et attraper les bumps in the road avant qu'ils arrivent devant nous. Donc, de juste, je pense, dévoiler un plan stratégique sans aller chercher la voix des gens, ça aurait probablement pas donné le même résultat au bout de la ligne, mais mon Dieu que ça nous aide à optimiser ce plan-là et après ça, vraiment mobiliser les gens à travers tout ça. Je pense que ça va être vraiment game changer et ça faisait longtemps que j'avais pas eu la chance d'implanter un nouvel exercice dans l'organisation qui, je pense, va vraiment faire une grosse différence. C'était la raison pourquoi je voulais en parler aujourd'hui.
Bien
quand
sûr.
On en parle en tant que tel comme exercice, ça a l'air extrêmement simple, mais je vous le dis, si vous dirigez une entreprise et que vous avez quelques couches de gestion entre vous et ce qui se passe sur le plancher de production, c'est incroyable l'effet ou ce qui va se passer dans ces rencontres-là. Ça a l'air très simple et très anodin, mais essayez l'exercice, c'est tellement puissant.
Bon, tu as capté mon attention. Donc, on va essayer d'aider Antoine Gagné et tous les gens qui, comme Antoine Gagné aujourd'hui, ont eu leur attention captée. On veut mettre ça en place aujourd'hui avec notre entreprise. Donc, je vais te donner un petit peu notre dynamique d'organisation. Donc, si on regarde nos opérations dans le groupe G7, on a les gens qui vont gérer les campagnes de publicité Facebook. On a les gens qui vont gérer les campagnes de publicité Google. On a les gens qui vont s'occuper du email marketing, les gens qui s'occupent du tracking et les gens qui s'occupent de la création. Donc, en tout et partout au niveau opérationnel, je te dirais qu'il y a environ 5 lignes d'affaires. Et là, après, il y a les volets un petit peu en dehors des opérations, vente, RH, finance. OK? Donc, vente, RH, finance, marketing. Donc, 5 volets opérationnels et on pourrait dire à peu près 4 volets, peut-être un petit peu plus, sur l'organisation administrative. Donc, en tout et partout, on va dire qu'il y a 9 types de travail différents, de catégories de travail différents. Bien entendu, il y a des hiérarchies dans chacune de ces catégories-là, mais je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. Comment, avec ça que tu as devant toi en ce moment, on est capable d'implanter un petit peu l'activité que tu as faite avec tes équipes? Comment tu t'y prendrais si tu étais dans ma position?
La première des recommandations, pas encore là, c'est juste une opinion, là, mais je déclarerai une journée obligatoire au bureau pour tous.
Ouf! Ça va coûter cher pour moi,
ça,
mais c'est correct.
Ça va faire mal et ça va coûter cher. Donc, je pense que les gens devant un écran s'ouvrent de manière très différente à autour d'un cercle dans une pièce qui permet d'avoir cet espace-là et cette cohésion-là. Donc, c'est de la manière dont on le fait. On a dit aux gens, journée de présence obligatoire. Et dans ce cas-là, c'est que je ferais des groupes de 9 personnes fois le nombre de groupes que vous avez besoin pour atteindre la quantité de gens que vous êtes. Donc, probablement dans une journée, 4-5 sessions de 2 heures, back-à-back, une après l'autre. On définit une liste de questions qui est importante, qu'on voudrait avoir des réponses ou des confirmations par rapport au plan stratégique. Et on part avec ça. On envoie les invitations à tout le monde pour dire, on va avoir votre voix, on va avoir votre opinion sur une série de questions qui va découler après sur la finalisation du plan stratégique et la présentation du plan stratégique. Et tout simplement, je fais arriver les choses. Pas plus compliqué que ça. Valider qui devrait être avec vous aussi dans cette session-là. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'une personne au niveau des HR soit là pour comprendre vraiment ce qui se passe et les enjeux. Une personne d'opération également qui soit là pour venir aider à intégrer ces éléments-là dans le plan stratégique par la suite. Et je ferai la nuance là-dessus. Là. Au début, je me demandais si je devais le faire seul ou avec d'autres gens autour de moi. Il y a tellement des choses qui ont sorti incroyables dans ces meetings-là que je suis extrêmement reconnaissant qu'il y ait d'autres gens dans l'équipe de gestion qui étaient là dans toutes les rencontres, pas que moi j'aille à prendre mon bâton de pèlerin et à les convaincre que l'élément X est extrêmement important parce que moi, je l'ai entendu et je le sentais comme ça. Eux-mêmes le savent que ça, c'est important et on n'a pas besoin de débattre. Donc, les gens qui devraient être en silence avec vous, qui devraient être en ghost, devraient être les personnes qui vont vous aider à prendre les décisions puis à confirmer le plan stratégique. Dans notre cas, à nous, c'est notre directeur général et notre personne au HR. Et ça, je le recommanderais fortement dans ton cas, Antoine, ou d'autres qui nous écoutent. Réfléchissez à qui va aider à prendre les décisions sur le plan stratégique. Il devrait être là en silence dans la rencontre. Ça va faire toute la différence après pour pas que vous ayez à convaincre quelqu'un que finalement, il y a quelque chose qui est super important ou une zone grise qui est importante. Il va l'avoir entendu de ses propres oreilles, des gens de l'équipe. Ça fait toute une grosse différence. Comme un voice of customer, Il n'y a rien qui vaut le fait de l'entendre par soi-même de manière auditive et visuelle que versus un résumé écrit ou quelqu'un qui retransmet le message, ça n'a pas le même impact.
Et peut-être pour terminer, avant que je te parle d'une nouvelle ou est-ce que je vais vouloir avoir ton opinion sur le volet finance? Là, tu as un plan stratégique, ça fait longtemps que tu penses à tout ça, ça fait longtemps que toi et moi on en parle. Donc, je savais un petit peu que tu t'enlignais vers ça au niveau de ta stratégie, ton organisation. Mais là, à quel point que tu vas changer la direction? Est-ce que c'est simplement des ajustements ou fondamentalement, tu penses que stratégiquement, tu te dois de prendre un petit peu plus de temps avant de le montrer à l'équipe?
On avait vraiment un bon plan initialement. C'est des optimisations qu'on va pouvoir faire dedans et des confirmations de certains items qu'on avait. Puis on était déjà en bonne... On avait dévoilé un plan stratégique il y a 2 ans qui était sur une échelle de 5 ans. Et on, je dirais, c'est une continuité de ce plan-là. C'est juste que là, on vient enlever du bruit autour parce qu'on se concentre juste sur une chose. Puis on vient raffiner des éléments pour être plus précis de comment on va le faire et surtout comment on a besoin de tout le monde et comment les gens peuvent participer à ça. Ça, c'est un autre outil qu'on a implanté qu'on appelle l'OGSM, qui est Objective Goal Strategy and Measure, qui nous permet d'avoir un beau plan stratégique qui se découle en 3 niveaux, à partir vraiment du haut niveau de l'équipe de gestion jusqu'aux gestionnaires, les middlemen, puis les gens de production. Ça, c'est un autre outil, mais aujourd'hui, je pense que je me limiterai à ce que je viens de mentionner.
Bon, ben tu vois, on va avoir plusieurs épisodes de podcast bientôt. OGSM, je m'en rappelle, je vais vouloir que tu nous expliques en détail les raisonnements, comment que la transaction a eu lieu. Je pense que c'est un succès vraiment sur toute la ligne pour tous les parties. Donc, ça vaut la peine d'expliquer ça à notre audience. Avant de te laisser filer, Jonathan, je voulais te parler de quelque chose que j'ai lu dans les nouvelles et je trouvais ça donc intéressant. Donc, comme beaucoup de gens le savent, Warren Buffett, à chaque année, fait sa lettre aux actionnaires, les actionnaires de son entreprise Berkshire Hathaway, qui est une des 5 à 10 plus grosses, peut-être même dans les top 5 des plus grosses entreprises en termes de capitalisation boursière au monde. J'ai quelques questions pour toi, Jonathan, pour voir qu'est-ce que tu penses qui aurait été fait. Donc, je te ramène à 1965 avec le lancement de Berkshire Hathaway, une entreprise de Warren Buffett qui rentre sur le marché public. À ce moment-là, tu as la chance, Jonathan, d'investir 1 $ avec notre ami Warren ou 1 $ de le S&P 500. On amène ça maintenant aujourd'hui, donc littéralement, ça nous fait 57 années plus tard. Quel investissement t'a rapporté le plus d'argent, selon toi?
Je serais prêt à parier ma vie au complet que d'investir avec Warren aurait été... plus que bénéfique que le reste de l'ensemble du marché ou les autres possibilités. Là.
Ben effectivement, tu as raison. Donc, pour donner un peu de contexte à l'audience, le stock de Berkshire Hathaway a fait 440 000 % En tout cas, c'est un chiffre qui est excessivement élevé. 4,400,000. Donc, c'est beaucoup de pourcentage comparativement à 31 000% que le S&P 500 fait. On va essayer de simplifier ça très simplement à l'audience. Vous auriez investi en 1965 100 $ avec Warren Buffett. Eh bien, votre 100 $ aujourd'hui vaudrait 400 millions de dollars. Donc, souvent, les gens, quand on investit sur le marché boursier, on se dit, avec le S&P 500, on va faire 7, 8, 10 % en année. Effectivement, de 1965 à aujourd'hui, l'indice boursier du S&P 500 fait 10,2 % d'intérêt composé en moyenne. Berkshire Hathaway, avec Warren Buffett, 19,8 % en moyenne. Il a littéralement ou quasiment doublé les ratios de retour sur investissement que le S&P 500 fait. C'est pour vous dire à quel point c'est un investisseur hors pair qui a été capable de faire énormément d'argent au courant de sa carrière. Quand je lisais les chiffres, les lettres ce matin, j'en revenais pas de me dire à quel point que tu peux avoir un delta autant important comparativement au marché boursier qui, habituellement, on se dit, bon, le marché fait 10, 8, 7, 8, 10%, je vais investir mon argent sur le S&P 500. Et imaginez 2 fois vos rendements avec Warren Buffett depuis 1965. 100 $ vaut 400 millions aujourd'hui. C'est pour dire, ça reste excessivement impressionnant.
Ta perception, Antoine, depuis que M. Munger n'est plus de cette terre, malheureusement, ouais. Feu Charlie Munger, l'avenir de Berkshire Hathaway, comment que toi, tu perçois ça? Parce que la croissance, elle est incroyable, tu sais, dans les dernières années.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce qui s'en... le passé n'est pas nécessairement garant du futur. Je pense que Charlie Munger était une des têtes, sinon égales ou sinon plus que Warren Buffett en arrière-plan. Il n'est plus là. Est-ce qu'ils ont réussi à passer le flambeau à d'autres bonnes personnes qui vont continuer ça ou même de renouveler un peu le modèle d'affaires? Parce que c'est pas vrai, ce qui a bien fonctionné les 50 dernières années va bien fonctionner en avant de nous. Ta perception, Antoine?
Ben, selon eux, bien entendu, la relève est déjà bien mise en place. Ils ont dévoilé les successeurs de Warren Buffett il y a déjà un bon bout de temps déjà. Donc, la relève est déjà en place. Écoute, il y a toujours des grosses questions qui sont à répondre quand des fondateurs charismatiques qui représentent l'entreprise, c'est plus tellement des fondateurs ou des chefs d'entreprise, c'est rendu davantage des chefs du marketing. C'est-à-dire, Warren Buffett est vraiment le cheerleader, le marketeur de cette entreprise-là. Pas en mode de faire du contenu ou quoi que ce soit, mais c'est lui la face et sa lettre aux actionnaires, c'est le plus gros coup marketing de l'entreprise à chaque année, et ça depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années maintenant. Donc, c'est sûr qu'à un certain point, on pourrait argumenter en disant Warren Buffett est le produit de Berkshire Hathaway. Faut le dire, il y aurait cet argument-là qui pourrait être fait. C'est-à-dire, un peu comme Elon Musk. C'est-à-dire que si Elon Musk est plus là, est-ce que Tesla, SpaceX ont autant de valeur? On peut avoir ces questions-là qui sont posées. Maintenant, il y aurait l'argument inverse qui dirait, écoute, on disait ça de Steve Jobs. Steve Jobs est parti. Le stock a fait, le chiffre exact, je peux plus dire, mais il a fait au moins 10, peut-être même 20 fois depuis qu'il est décédé. Bref, peut-être tu as la chance de regarder rapidement les chiffres, Jonathan, mais ça l'a fait au moins fois 10 depuis que Steve Jobs est décédé. Donc, il y aurait cet argument-là ici. Je pourrais pas répondre directement à la question. J'aurais tendance à dire que sur le court terme, à mon avis, comme on le vit avec Apple, il y a énormément de planification qui a été faite sur plusieurs années. Il y a un plan de relève qui a été mis en place. Sur les 5, 6, 7 premières années, j'imagine qu'on est capable de vivre un petit peu de la planification qui a été mise en place avec Munger, avec Buffett, si malheureusement, ultimement, Warren Buffett décède. Mais par contre, quand tu viens sur une deuxième étape, puisque vit littéralement Apple en ce moment, quand tu as passé ce 5, 10 années-là, que tu es capable de vivre des innovations antérieures, mais là, tu te retrouves vraiment face à devoir te réinventer. Et c'est là que des entreprises, je pense, ça devient beaucoup plus difficile. On le voit avec Apple. Là, oui, ils ont lancé le nouveau casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée, mais c'est à quand remonte la dernière grande innovation d'Apple? Et on était dans un environnement.
Le mot passé.
Le mot passé, mais avant le casque de réalité virtuelle puis de réalité augmentée,
trop
comme
loin.
Je dis,
trop loin.
Puis encore une fois, soyons honnêtes, ils sont deuxième joueur sur le marché. Il y a eu des bons commentaires, mais c'est pas comme si au moment où on se passe, c'est encore révolutionnaire. Donc, je pense que il y a un point d'interrogation, il y a un marché qui se dessine là-dedans. Apple va être un gros joueur, mais c'est pas comme si c'était évident qu'ils avaient gagné encore le marché. Effectivement, je pense qu'on pourrait faire l'argument que c'est ici que ça va se dessiner, mais ça a été très peu. C'est pas le même Apple. C'est un Apple qui est très opérationnel, orienté sur la marge de profit, retour aux actionnaires, chose qu'on voyait moins avant. Donc, je pense que, réponse simple, l'entreprise peut vivre 5 à 10 ans sur la planification, la dynamique qui a été installée avant le décès, mais la vraie réalité te fait face quand tu as été à bout des innovations anciennes et que tu dois te réinventer en tant qu'entreprise.
Et tu avais une bonne mémoire, c'était presque 10 fois depuis que Steve Jobs est décédé, c'est 11 fois, 10 points quelque chose. Donc, toujours impressionnant, Antoine, ta mémoire. Juste comparer les positions cash entre Apple et Berkshire Hathaway. Apple a présentement 72 milliards de dollars dans les coffres à l'heure actuelle. Ils ont commencé à en retourner aux actionnaires par dividendes, rachat d'actions et compagnie. Berkshire Hathaway, 167 milliards de disponibles en dollars dans les coffres.
Exact. Donc, il y a de l'argent beaucoup de côté qui dit depuis un certain temps Warren Buffett parce qu'il regarde un petit peu les investissements qui peuvent être faits. Puis 168 milliards de dollars, juste pour essayer de donner un peu une image à l'audience, c'est la valeur boursière de General Electric, c'est la valeur boursière de Comcast, c'est plus que la valeur boursière de Uber qui est à 162 milliards, c'est plus que la valeur boursière de Nike qui est à 160 milliards et c'est plus que la valeur boursière de Walmart qui est à 159 milliards. Et ça, c'est pas la valeur boursière qu'on donne de Berkshire Hathaway, c'est l'argent dans le compte de banque. Donc, juste pour démontrer un petit peu l'amplitude de tout ça, là, la magnitude de tout ça. Donc, je trouve ça, j'ai lu la lettre au complet et je trouvais ça donc fascinant de te rendre compte que finalement, il était capable de faire deux fois ce que le marché fait depuis 1965. Incroyable.
Et surtout qu'il a parti complètement de zéro. Là, toute cette création de richesse ou de valeur-là, c'est de zéro. Donc, on vous invite aujourd'hui à aller voir combien vous avez dans votre compte aujourd'hui. Et dans 60 ans de là, on vous met au défi d'aller plus loin, d'avoir plus de cash de disponible dans vos organisations. Voilà. Faut rêver. On n'a pas le choix.
Donc, hey, Jonathan, toujours une belle discussion. Merci du bel échange. Je pense que ça ouvre la porte à des très bons podcasts qu'on va faire prochainement. Pour les gens encore qui nous écoutent, abonnez-vous au podcast sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Et on vous le répète, on cherche un dernier partenaire pour faire l'événement présentiel qui va avoir lieu à la fin mai 2024. Beaucoup plus d'informations vont sortir dans les prochains podcasts, mais ça a lieu. Jonathan va être là, je vais être là.
On a déjà sécurisé également deux partenaires pour l'événement. Il nous en manque un dernier. Donc, si vous êtes intéressé, un message sur LinkedIn, un message sur email, beaucoup d'informations dans les notes de l'épisode. On vous remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Oh.